entrevue.
Et la journée de visibilité lesbienne aura lieu, c'est le 26 avril 2026. Ça vise à célébrer les personnes lesbo-queer. Au Québec, les festivités et les marches sont organisées, entre autres, par le Réseau des lesbiennes du Québec. Et pour en parler, nous recevons Samia Amrani, une des co-porte-parole de la journée et une figure marquante des luttes décoloniales et de LGBTQA+ à Montréal. Elle est avocate de formation, membre active de HLM Montréal. Elle s'investit pour les communautés avec une ferveur exemplaire. Puis je pense que c'est un peu pour ça qu'elle a été nommée, co-porte-parole. Je peux aussi souligner qu'elle a cofondé La Fierté Indomptable l'an dernier, un projet célébrant la force des identités queer, saphiques et BIPOC, où nous on dit PANDC, personnes autochtones, noires et de couleur. Samia, comment reçois-tu cet hommage d'être co-porte-parole de la journée de visibilité lesbienne?
Salut Denis Martin.
Salut! J'aurais dû te dire un petit bonjour avant de commencer. Oui.
Oui, ça va bien, ça va bien.
Oui.
Écoute, je le prends avec énormément d'humilité, mais aussi comme un gros câlin, puis vraiment un baume sur le cœur. Puis c'est vraiment un titre que je porte pas à titre personnel, je le porte vraiment au nom de toutes les personnes qui s'impliquent avec moi là depuis les 10 dernières années et plus, que ce soit pour les luttes justement de personnes queer racisées ou au sein de la Fierté Indomptable, HLM Montréal. C'est vraiment un honneur en fait. Ça a été hyper émouvant et touchant pour moi de recevoir cette nomination, surtout auprès de mes co-porte-paroles qui sont elles aussi incroyables, donc Florence et Anne-Sara de Papefière, puis l'incroyable Manon Massé, là, c'est quand même tout un honneur.
Tout à fait. On va parler de ton implication auprès d'abord de HLM Montréal. Tu travailles donc avec des personnes queer ou de LGBTQIA+, de la région, puis là, j'ai lu Swamna,
oui.
C'est quoi?
Swana, c'est en fait un terme décolonial pour parler du Moyen-Orient, donc c'est Southwest Asia and North Africa en anglais.
Okay.
Puis je veux juste recontextualiser un petit peu là mon travail avec HLM, comme tu le dis. Je pense que c'est important de remettre en contexte là, surtout dans le contexte actuel avec le communautaire à bout et toute la levée du communautaire en fait par rapport aux conditions actuelles. HLM, c'est pas un organisme qui a des employés, donc tout ce qu'on fait comme travail, c'est vraiment à titre bénévole. Et d'ailleurs tout notre travail des dernières années nous a beaucoup essoufflé. En ce moment, on est en recrutement de nouvelles personnes pour rejoindre notre mission. Donc, on espère pouvoir repartir d'un feu nouveau là, pour les prochaines années.
C'est quand même du travail important parce qu'on connaît un peu là, ce qui se passe présentement au niveau des... Comment je pourrais dire? La parole raciste, décomplexée, tu l'as vécu, mm-hmm. hein?
Oui, exactement. Non, mais c'est ça. C'est pour ça que c'est important pour moi, parce que comme tu l'as nommé là, je suis avocate, donc j'ai quand même un 9-5. J'ai mon emploi à temps plein, puis je m'implique aussi auprès d'autres organismes, etc. Donc c'est sûr qu'on a besoin de mains, et je voudrais pas que le projet tombe à l'eau juste par essoufflement. On veut pas donner raison à ce racisme, comme tu dis, banalisé, normalisé. Donc, j'espère vraiment là qu'on va trouver les porteurs de cette voie-là pour la suite.
Alors, comment la question de la visibilité lesbienne ou lesbo-queer se croise-t-elle avec les réalités décoloniales que tu défends?
Je dirais que toutes nos luttes sont interconnectées. Quand on parle de queerness, on doit aller plus loin puis chercher d'où ça vient ces luttes, puis pourquoi aujourd'hui on peut bénéficier d'autant de droits. Ici, par exemple, au Québec, au Canada, il y a eu des pionnières avant nous, des pionniers, des pionnières avant nous qui se sont battus pour que ces droits soient acceptés, qu'on puisse vivre en fait notre amour et notre identité de manière libre. Et je pense que ce type de lutte, là, cet exemple, ce schéma de lutte peut être copié-collé là, pour toutes les autres, notamment les luttes décoloniales. Et dans le contexte qui me concerne, j'imagine que tu penses à ma lutte là, par rapport à ce qui se passe en Palestine.
Oui.
Je pense que ça peut être, on peut extrapoler là, puis appliquer ce modèle de lutte pour toutes les luttes.
Parce que tu es vraiment une personne impliquée et qui est toujours disponible quand on veut lui parler. Puis ça, je trouve que c'est important. Non, c'est très important parce que ce sont des sujets qui doivent être discutés, même s'ils ne sont pas populaires et même si ce qu'on dit ne fait pas toujours plaisir aux gens, c'est quand même des choses qui doivent être dites. Alors, quels sont les obstacles spécifiques auxquels les femmes lesbo-queer font face dans cette intersection?
Mais je te dirais que déjà, en général, en plus de l'homophobie, de la queerness ambiante, il y a du sexisme, de la misogynie. Donc, tu peux bien t'imaginer que quand tu es représentant non seulement de la gente féminine, mais en plus de la communauté LGBT, il y a une intersection de lutte qui existe. Et après, on peut aller rajouter d'autres oppressions. Donc, par exemple, une femme lesbienne qui est en plus grosse ou qui est en plus racisée, qui est en plus handicapée, qui est en plus neurodivergente, ça fait juste de plus en plus d'oppression. Et je suis vraiment fière d'avoir été choisie pour être co-porte-parole parce que je suis une femme racisée, donc ça me fait plaisir de pouvoir aussi étendre ces voix-là. Et je ne sais pas si tu l'avais mentionné en introduction, mais je vais le faire. Je pense que c'est vraiment important de mentionner que cette année, la journée de visibilité lesbienne ne va pas être seulement à Montréal. Il y a également un week-end qui est prévu dans la ville de Québec. Et oui, je pense que c'est vraiment cool parce que on nous parle souvent de montréalocentrisme et c'était des thèmes là qui a été abordé avec le RLQ quand ils nous ont contactés pour faire le co-porte-parole là. C'était qu'ils voulaient rendre ça plus accessible là, à travers le Québec. Moi-même là, je viens de Trois-Rivières, donc ça m'a fait vraiment plaisir de l'apprendre. Et je pense que c'est important de continuer de rendre ça encore plus large. Québec, c'est bien. Montréal, c'est extraordinaire. Mais je pense que dans les années futures, il va falloir aussi essayer d'aller rejoindre plus de gens dans les régions parce que nos luttes queer n'existent pas que dans les grands centres. Au contraire, et parfois, elles sont invisibilisées ou oubliées parce qu'elles sont dans des régions plus éloignées.
On va parler de Fierté indomptable, Wild Pride, qui a été créé en 2025. Tu as fait partie du groupe là, qui a mis ça de l'avant. Quel bilan adresses-tu?
Je suis tellement fière et émue. On vient de sortir notre rapport financier pour montrer un petit peu qu'est-ce qu'il en est, tu sais, parce que les gens ont donné, mais cet argent est allé où? C'est fou parce qu'en tout et pour tout, tu sais, c'était bénévole comme travail. Il y a des artistes qui ont été rémunérés, mais beaucoup d'entre eux ont décidé de donner leur cachet. Pareil pour les personnes qui se sont impliquées dans la cause. Certains d'entre eux ont pris une somme, et je te dirais vraiment, là, c'est dérisoire comme somme, mais la plupart ont décidé de donner leur temps. C'était leur manière de se dire qu'ils donnaient à la cause. Et on a réussi à amasser un peu plus de 8 000 $ qui a été distribué à différents organismes. Je vous invite à aller voir là sur notre page Instagram tous les détails. Mais le bilan que j'en fais, c'est que ça a été magique, ça a été magnifique. Et je suis vraiment fière d'annoncer là aujourd'hui qu'il va y avoir une deuxième édition.
Oui.
La deuxième édition est en préparation et je pense que ça devrait mieux se passer peut-être, dans le sens où on était une toute petite équipe pour la première édition. Là, on est allé recruter, donc on est une équipe, je pense, d'à peu près 25 personnes. Je pense que ça va être beau, ça va être grand, puis on va essayer de ne pas faire les mêmes erreurs que l'année passée. Donc, j'ai hâte de voir la suite.
Ah, bon, je ne peux pas m'empêcher de poser la question. Quelle sorte d'erreur dont on parle l'an dernier?
Mais je pense que c'est des erreurs qui ont eu des impacts notamment sur notre niveau d'énergie et de fatigue parce que juste on s'attendait pas à ce que ce soit reçu avec autant d'enthousiasme et on a dû donc rectifier le tir et donner beaucoup plus que ce qu'on était supposé donner. C'est comme moi par exemple, au début j'avais dit que j'allais donner peut-être un 5 à 10 heures par semaine et finalement vu l'engouement, j'ai dû donner pas mal plus de temps. Donc c'est une des raisons pourquoi on a agrandi l'équipe. Je pense qu'il faut aussi le mentionner là, mais on n'a pas pu être aussi inclusif qu'on aurait voulu l'être. Je pense que c'est important cette année d'essayer de vérifier, de faire attention là, puis de voir les erreurs qu'on a fait à ce niveau-là aussi. Je pense que tu étais une des personnes qui l'avait mentionné d'ailleurs, Denis Martin, mais ne serait-ce que par rapport à la langue française, là, il y a beaucoup de choses qui avaient été reprochées par rapport à ça. Donc c'est quelque chose qu'on garde vraiment en mémoire et comme je te l'ai dit, là, vraiment être plus inclusif, accueillir le plus de groupes intersectionnels possibles. Je pense qu'on fait toujours de notre mieux, mais je pense qu'on peut toujours aller plus loin.
Fierté Montréal a quand même changé. Hein? Je pense qu'il y a eu, tout un effet. Il y a eu tout un... cette espèce de mouvement qui a eu lieu parce qu'au-delà de Fierté indomptable, il y a eu tout un mouvement communautaire qui a remis en question certaines choses à Fierté Montréal. Et on sait que, en fait, le conseil d'administration, beaucoup d'employés, ça a changé. Est-ce que tu es plus à l'aise vis-à-vis Fierté Montréal que tu l'étais peut-être l'an dernier?
Je veux pas trop prononcer parce que c'est vraiment pas à moi de mentionner quoi que ce soit tant que ça n'a pas été discuté avec le reste de l'équipe. Mais je veux juste dire que j'ai eu la chance de rencontrer Higino, notamment, là, le nouveau directeur général.
Higino Montero, oui.
Exactement, et je suis pas mal plus, je me sens pas mal mieux en sa présence déjà. Je le sens beaucoup plus ouvert, puis j'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui veut essayer de réparer les blessures du passé. Donc, je veux juste dire que je suis ouverte, en tout cas en tant que Samia, là, pas en tant que Wild Pride, pas en tant que Helen, en tant qu'humain, en tant que personne, en tant qu'individu. Moi, j'ai eu de super échanges avec Hijino, j'ai même eu la chance de rencontrer certains membres de son équipe. Donc, écoute, si ce n'est que d'un niveau personnel, moi, je suis ouverte et quand même apaisée d'une certaine manière. Mais ce n'est que l'avenir qui nous révélera là, ce qu'on doit faire avec fierté, est-ce qu'on peut leur faire confiance ou pas. Et comme je te dis, par rapport à la fierté indomptable, puis Helem, ce sera aussi des discussions là à venir parce que au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas te donner plus d'informations sur nos échanges.
Bon, parlons de cette journée-là. On parle de découvrir, remercier, festoyer. Au-delà de la célébration, c'est quoi l'enjeu politique là, de rendre visible les personnes lesbo-queer dans un climat social qui on l'a identifié. C'est pas facile ces jours-ci sur les questions de genre et d'identité sexuelle.
Je sais pas pour toi, mais moi, à chaque fois que je suis entourée de gens qui me ressemblent, je me sens mieux. Puis si ce n'est que pour ça, je pense que c'est important de prendre un moment pour se célébrer, pour se rappeler qu'on a le droit d'exister, puis se rappeler aussi, encore, tu sais, comme on le mentionne depuis le début de cette entrevue, là, l'importance des gens qui ont lutté pour nous. Donc, ne serait-ce que pour ça, je pense que c'est important. D'ailleurs, j'ai été invitée pour donc la première fin de semaine, le 25-26, c'est à Québec, puis la deuxième fin de semaine, c'est le 2 et le 3 mai, si je ne me trompe pas, ouais. À Montréal. Donc, pour la fin de semaine du 2-3 mai à Montréal, j'ai été invitée à être sur un panel avec d'autres Power Gwyn, qu'on nous appelle, là, du communautaire. Et j'ai bien hâte, parce que je pense que ça va être un échange important pour se rappeler, oui, nos luttes, mais aussi se rappeler tout le travail extraordinaire qu'on fait dans le communautaire.
J'adore ce terme Power Gwyn, c'est vraiment... Il n'y a que vous autres pour passer à ces idées-là. Hein?
C'est beau, hein?
C'est beau. Non, c'est beau quand même. Se réapproprier ces termes-là. Tu sais, le terme McGuinn peut être un terme péjoratif, mais peut aussi être un terme qui redonne du pouvoir aux gens. C'est important de le souligner.
Moi, je prends comme ça.
Hey, on peut-tu parler de toi? Parce que là, on parle que tu es une personne racisée, puis j'ai pas osé le dire moi-même. Comment tu te définis? Qui es-tu, Samia?
C'est la première fois qu'on pose cette question, je pense, on air.
Puis on the spot, comme ça, oui.
Oui, c'est ça. Écoute, ben moi, je suis... C'est quelque chose que je mentionne parce que ça fait partie de moi, mais au jour le jour, moi, je suis montréalaise, tu sais, je suis québécoise, j'ai grandi à Trois-Rivières, je suis marocaine, je suis pas pratiquante, donc je suis pas musulmane, je suis de culture musulmane, je vais toujours lutter aux côtés de mes sœurs musulmanes qui le pratiquent, aux côtés de mes frères, de mes adelfes en général, musulmanes. Par contre, je ne suis pas pratiquante, bien que c'est la culture dans laquelle j'ai grandi. Je suis avocate en immigration, donc c'est un peu ça qui occupe mes journées. Puis, depuis que je suis toute jeune, je pense que ça vient peut-être du parcours migratoire de ma mère, qui est vraiment mon inspiration première. Mais j'ai jamais réussi à vivre que pour moi. Donc, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles c'est aussi important pour moi de m'impliquer. Puis que, en fait, j'imagine très mal ma vie sans implication. Donc, c'est un peu pour ça que je continue de militer parce que j'ai l'impression que des fois les gens pensent qu'on fait ça par ego ou parce que ça nous amène quoi que ce soit, mais honnêtement, moi je le fais parce que ça me fait sentir bien puis parce que ça fait vraiment partie intégrante de mon quotidien que de lutter aux côtés de mes adelfes pour toutes sortes de luttes d'ailleurs. Et voilà, je pense que c'est comme ça que je me définirai. J'aime beaucoup le vin.
Oui. On ira prendre un verre. Je vais devoir arrêter ici parce qu'on commence à entrer dans trop de détails puis il va nous manquer de temps. Mais merci beaucoup, Samia Amrani, co-porte-parole de la journée de visibilité lesbienne. À bientôt.
Merci beaucoup pour l'entrevue. Bye-bye.
Bye-bye.